Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 5 juin 2023. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia pour commencer les titres. Au Sénégal, un calme précaire règne après les manifestations meurtrières consécutives à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans d'emprisonnement. Manifestation de Sénégalais hier devant la Maison Blanche appelant Washington à aider leur pays à sortir de cette crise. Au Burkina Faso, fermeture des locaux du journal d'investigation L'Événement en raison d'un contentieux fiscal. Scepticisme de la Société des éditeurs de la presse privée. Les Bissau-Guinéens étaient aux urnes hier pour des élections législatives. En Guinée, au moins 7 jeunes écolières sont mortes noyées dans le naufrage d'une pirogue. Au Soudan, Américains et Saoudiens veulent une trêve effective alors que les combats entre militaires et paramilitaires continuent de faire rage. La Russie dit avoir repoussé une offensive de grande envergure ukrainienne. Ne manquez pas notre page sport ainsi que Élisée Oupatine qui nous la présentera. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, un calme précaire règne après plusieurs jours de fortes tensions et de manifestations violentes qui ont fait officiellement 16 morts. Les autorités ont accentué les restrictions qui touchent Internet pendant que la police et la Croix-Rouge ont dressé un premier bilan. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagué.
Les Sénégalais n'ont plus un accès libre à Internet. Après une première mesure restrictive concernant les réseaux sociaux, les autorités gouvernementales ont décidé de suspendre temporairement et sur certaines plages horaires l'Internet mobile, qui est le moyen de connexion le plus utilisé au Sénégal, d'après les experts en numérique. Dans un communiqué signé par le ministre de la Communication et des Télécommunications, l'État a dit prendre cette mesure en raison de la diffusion de messages haineux et subversifs dans un contexte de troubles à l'ordre public dans certaines localités. Une décision qui plombe l'activité de beaucoup de Sénégalais, tout comme la série de manifestations et son lot de conséquences. D'ailleurs, la Croix-Rouge sénégalaise dit avoir porté assistance à 357 blessés, parmi lesquels il y a une femme enceinte et 36 éléments des forces de défense et de sécurité. 78 cas graves sont également à noter parmi ces blessés secourus dans la région de Dakar et dans le sud, à Ziguinchor. De son côté, la police nationale a annoncé l'arrestation de 500 personnes, parmi lesquelles des mineurs, des personnes de nationalité étrangère et des manifestants armés et mal intentionnés. Des propos contestés par l'opposition, notamment le parti PASTEF d'Ousmane Sonko, qui dénonce la présence de milices armées aux côtés des forces de l'ordre et demande aux Sénégalais de rester mobilisés pour défendre la démocratie. Seydina Abagué pour VOA Afrique, Dakar.
Ici à Washington, face à la crise qui prévaut au Sénégal après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans d'emprisonnement, des dizaines de Sénégalais membres de son parti, le PASTEF, et d'autres qui se disent de simples citoyens, ont manifesté hier devant la Maison Blanche. Ils ont appelé les autorités américaines à aider le pays à sortir de cette crise. Écoutons l'un d'entre eux au micro d'Abdourahman Dia. Il s'appelle Mohamed Gueye.
Nous attendons tout simplement le rétablissement de la démocratie au Sénégal et surtout l'opposant premier du président Macky Sall qui soit libéré parce qu'il est emprisonné illégalement chez lui. Et nous aimerions, en tant que citoyens sénégalais, parce que les libertés qui sont garanties dans la constitution sénégalaise, dans son article 8, nous aimerions que le président puisse respecter ces droits-là.
Alors, vous pensez qu'au Sénégal, vu la situation, il est toujours possible de trouver une issue par le dialogue?
Évidemment, parce que toutes les guerres se sont réglées autour d'une table. Nous avons vu la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, tout s'est réglé autour d'une table. Il y a encore une issue heureuse pour que tous ces Sénégalais ne soient pas tués, ne soient pas victimes de tortures policières, de barbarie policière. Donc nous invitons encore une fois la communauté internationale à parler à Macky Sall. Nous invitons Monsieur le Président, comme il aime les titres, Monsieur le Président Macky Sall, à parler au peuple, à descendre, à parler, à dire, voilà, je ne me présenterai pas pour un troisième mandat.
a précisé que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée par la défaite des nazis et le reste. C'était Mohamed Gueye, un Sénégalais vivant à Washington DC et membre du parti PASTEF d'Ousmane Sonko. Au Burkina Faso, les locaux du journal d'investigation L'Événement ont été mis sous scellé par les autorités en raison d'un contentieux fiscal, une décision déplorée dimanche par la Société des éditeurs de la presse privée qui dénonce une instrumentalisation du fisc. Il est difficile de ne pas faire le lien entre le travail de ce journal d'investigation et sa fermeture manu militari par les impôts, a-t-elle regretté dans un communiqué dimanche. L'instrumentalisation du fisc et des services publics en général pour faire taire les voix discordantes ou pour mettre au pas les empêcheurs de tourner en rond est une entreprise dangereuse et contre-productive dont il faut se départir, poursuit la CEP. Les Bissau-Guinéens ont voté hier pour élire leur Assemblée nationale dissoute il y a plus d'un an. Ce scrutin à la proportionnelle à un tour est censé aider leur État, abonné aux crises politiques, à sortir de la paralysie, Jean-Roger Bion.
Près d'un million d'électeurs ont été conviés à renouveler les 102 députés du Parlement Bissau-Guinéen. 22 partis politiques se disputent le scrutin, dont les trois qui se partageaient presque tous les sièges de l'Assemblée sortante. Le MADEM G15, la famille politique du président Mbalo, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le Parti du renouveau social. La Guinée-Bissau souffre d'une instabilité chronique et a été victime depuis son indépendance en 1974 d'une querelle de coups d'État, la dernière tentative remontant à février 2022. Quelques 200 observateurs internationaux sont déployés dans le pays pour surveiller le vote. Un nouveau premier ministre sera nommé à l'issue du vote. Les résultats ne sont pas attendus avant demain, mardi.
Au moins 7 jeunes écolières qui allaient passer lundi les examens d'entrée au collège se sont noyées après que leur pirogue a chaviré sur le fleuve Niger près de la ville de Kouroussa en Haute-Guinée, a indiqué un ministre et un proche d'une victime. Selon ce dernier, elle s'était embarquée dans une pirogue surchargée qui a chaviré sous le poids des passagers et des marchandises. Toutes les filles venaient du district de Kourala et se rendaient dans la sous-préfecture de Balato, à 40 km de la préfecture Kouroussa, a-t-il précisé. Une autre source locale a assuré sous anonymat que le bilan n'était que provisoire et pouvait être plus lourd. Les opérations pour retrouver des corps se poursuivaient dimanche soir. L'Arabie saoudite et les États-Unis cherchent à poursuivre les discussions entre les belligérants au Soudan en vue d'un nouveau cessez-le-feu effectif, a affirmé Riyad dimanche. Cette nouvelle initiative intervient alors que les combats entre militaires et paramilitaires continuent de faire rage sans issue en vue. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Riyad et Washington souhaitent que les parties en conflit s'accordent sur les mesures à prendre sur le court terme pour la reprise des négociations à Jeddah. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a fait savoir dans un communiqué que des émissaires de l'armée et des paramilitaires se trouvent toujours à Jeddah, sur la mer Rouge, où les négociations ont été officiellement suspendues. Les deux médiateurs ont appelé à un nouveau cessez-le-feu qui soit appliqué de manière effective, sachant que les deux précédentes trêves sont restées lettres mortes. Mercredi, l'armée s'est retirée des discussions censées créer des couloirs sécurisés pour les civils et l'aide humanitaire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend en Arabie saoudite du 6 au 8 juin. Les États-Unis se disent prêts à reprendre les discussions à Jeddah avec les généraux soudanais s'ils sont sérieux dans leur volonté de respecter le cessez-le-feu.
BRIC à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces russes disent avoir repoussé hier matin une offensive de grande envergure menée par l'armée ukrainienne dans le Donbass. C'est ce qu'a affirmé le ministère russe de la Défense dans la nuit de dimanche à lundi. Les autorités ukrainiennes n'ont pas fait mention de ces événements dans l'immédiat. Kiev affirme depuis des mois préparer une grande contre-offensive contre les forces russes. Le secrétaire général de l'OTAN a appelé dimanche la Turquie à lever ses objections à l'encontre de la Suède qui a rempli ses obligations et a finalisé son adhésion à l'Alliance dès que possible. Précision d'Eric Manerakidza.
Jens Stoltenberg, qui a salué une réunion productive, s'exprimait à l'issue de 2 heures d'entretien à Istanbul avec le président SEP Tayyip Erdogan, réinvesti la veille pour un nouveau mandat de 5 ans. La Turquie bloque depuis 13 mois l'entrée de la Suède dans l'Alliance Atlantique en lui reprochant héberger sur son sol des militants kurdes. Pour Monsieur Stoltenberg, il est temps que cette adhésion se confirme avant le sommet de l'Alliance à Vilnius les 11 et 12 juillet. Il a annoncé à cette fin la création d'un mécanisme permanent entre l'OTAN et la Turquie avec une prochaine réunion dans la semaine du 12 juin, sans préciser où elle se tiendra. L'adhésion de la Suède à l'OTAN va renforcer sa sécurité, mais elle va aussi rendre la Turquie plus forte, a insisté le patron de l'OTAN, ajoutant qu'il compte finaliser l'accession de la Suède le plus tôt possible. La Turquie reste le seul des 31 États membres de l'OTAN, avec la Hongrie, à n'avoir pas encore ratifié l'entrée de la Suède après le feu vert à la Finlande.
Le ministère américain de la Défense a dénoncé dimanche les actions de plus en plus risquées de l'armée chinoise en Asie après 2 incidents entre les forces des 2 pays ces derniers jours. Cette déclaration fait suite à 2 incidents impliquant les forces américaines et chinoises dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale ces 10 derniers jours. Ici aux États-Unis, les habitants de Washington et de sa banlieue ont rapporté hier avoir entendu un bruit tonitruant qui a fait trembler fenêtres et murs à des kilomètres à la ronde et suscité nombre de questionnements sur les réseaux sociaux. C'était après qu'un bang supersonique a retenti lorsque 2 avions de chasse ont cherché à intercepter un appareil privé survolant Washington et le nord de la Virginie. Les 2 chasseurs ont tenté d'établir en vain un contact avec le pilote avant que l'appareil, selon des responsables, ne s'écrase en Virginie à environ 270 km au sud-ouest de Washington. Les sports à présent avec Élisée Onpatine. Élisée, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer avec le dénouement des interclubs de la CAF. D'abord le sacre G en Coupe de la Confédération.
Oui, après 86 ans d'attente, le club de la Médina gagne enfin un trophée majeur sur le continent. Battu 1-0 à domicile par les Tanzanais de Young Africans lors de la finale retour, les Algériens vainqueurs 2-1 à l'aller bénéficient de la règle du but marqué à l'extérieur. Un sacre mérité selon leur entraîneur Abdelak Benchika.
C'est mérité par rapport les 12 matchs. On était au top. Donc, mais nous sommes heureux. Tout le peuple algérien est heureux. Alhamdulillah. Quelle est l'histoire du club? Club, un grand club. Un grand décile. Sur le plan continental, avec des hauts et des bas, on a fait une finale. Nous avons fait une demi-finale. Mais ça reste fragile. Je pense que nous méritons d'être le titre.
En Ligue des Champions, on jouait la finale aller.
Et Al Ahly du Caire remporte à domicile le premier match. Succès 2-1 sur le tenant du titre, le Wydad de Casablanca. Une petite option que devront défendre les Égyptiens à Casablanca dans une semaine devant des Marocains qui pouvaient aussi profiter du but marqué à l'extérieur.
Football toujours, mais chez les jeunes. Le Nigeria, dernier représentant africain, éliminé du mondial des moins de 20 ans.
Tout à fait. Les Flying Eagles se sont inclinés en quart de finale devant la Corée du Sud, score 1-0. But encaissé en début de prolongation sur corner. Comme en 2003, pas d'équipe africaine dans le dernier carré du mondial junior.
Cyclisme à présent avec la 2e étape du Tour du Cameroun.
Et 2e victoire de suite pour l'Algérien Yacine Hamza. Il s'impose dans les rues de Garoua devant le Néerlandais Peter Meus et le Rwandais Étienne Tuizere. La course marque une pause aujourd'hui avant de reprendre demain. Et puis, du basketball pour terminer la NBA. Avec vous Idrissa, le résultat du match numéro 2 de la finale.
Eh bien, Élisée, les étonnants Miami Heat ont égalisé avec les Denver Nuggets, 1 victoire partout, en les battant à Denver même, 111 à 108. «
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seboudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, les violentes manifestations en cours empêchent les vendeurs de moutons de dérouler correctement leur commerce à 3 semaines de l'Aïd, la fête du mouton communément appelée Tabaski et qui est considérée comme la fête religieuse la plus importante du pays. À Dakar, la capitale, Soumidioum fait office d'exception. Dans ce petit quartier de pêcheurs en bord de mer, la solidarité des habitants permet pour le moment l'exposition et la vente des moutons pour la Tabaski. Notre correspondant à Dakar, que nous retrouvons, Sedina Abagay.
À Dakar, dans plusieurs coins et avenues stratégiques, des bâches et des barrières sont installées ça et là. Ces espaces de vente aménagés depuis plusieurs semaines n'ont pas encore accueilli de moutons à cause des fortes tensions. Sauf qu'à Soumbedjoun, les habitants, comme Mustapha Sek, ont décidé d'exposer leurs billets. Malgré tout.
Nous vivons un risque énorme car nous sommes en danger et nous en prenons également en mettant nos moutons dehors. Nous sommes inquiets car après avoir fait des prêts pour certains et sorti des épargnes de plusieurs millions pour d'autres, on se retrouve dans un pays très instable ces derniers jours avec des gens qui attaquent des stations et des magasins. À pareille période, les rues sont pleines de moutons car l'Aïd est proche, mais actuellement personne n'ose sortir son argent pour acheter des moutons et nous qui l'avons fait, nous ne sommes pas rassurés.
Pour faire face à cette situation quasi inédite, les habitants du quartier de pêcheurs de Soumbedjoun ont décidé de s'organiser solidairement afin d'exposer et de vendre leurs moutons en toute sécurité. El Hadj Gueye est pêcheur et éleveur de moutons.
Nous nous serrons les coudes en communauté et entre voisins pour sécuriser les moutons. Au-delà de la sécurité des moutons, c'est comme cela que nous vivons en permanence. On s'aide les uns les autres pour assurer notre bien-être et nous faisons pareil actuellement pour éviter que les manifestants attaquent nos moutons. Nous sommes une communauté de pêcheurs et si nous acceptons que notre cadre de vie soit détérioré, qu'est-ce qu'on va devenir?
Pour éviter que les violences qui touchent beaucoup de localités du pays ne se répandent davantage, Mustapha Sek, pêcheur et vendeur de moutons, espère que la plus haute autorité du pays va calmer la situation.
En tout état de cause, nous ne souhaitons pas que les manifestants arrivent ici, car la foule est tellement dense que si des malfrats en profitent pour prendre nos moutons, il risque d'y avoir des dégâts matériels et humains inestimables. Actuellement, seul le président de la République peut ramener la paix, car il est le père de la nation. Au-delà de la sécurité des moutons, nous le lui demandons pour notre sécurité, celle de nos familles et du peuple sénégalais.
Beaucoup de vendeurs de moutons sont dans le désarroi à 3 semaines de la fête de l'Aïd, communément appelée Tabaski. Certains ont déjà investi leur argent et pris le risque d'exposer leurs moutons, d'autres sont très peu enclins à faire pareil. Pour eux, il est essentiel que le calme revienne pour éviter de perdre les millions investis dans l'achat et l'élevage des moutons. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le Bénin est déjà lourdement touché par l'annonce de la fin des subventions sur le carburant au Nigeria voisin. Les stations-service sont débordées, les usagers fuyant la montée en flèche du prix de l'essence vendue en contrebande aux abords des routes ne savent plus où donner de la tête, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Les vendeurs d'essence de contrebande craignaient une telle annonce du nouveau président nigérien, Bola Ahmed Tinubu. Il a annoncé le jour de son investiture, lundi dernier, la fin des subventions sur le carburant. Un réveil brutal pour les Béninois qui, depuis le 30 mai, sont obligés de payer l'essence au double de son prix. De 500 francs CFA, le litre est passé à 1000 ou 800 francs CFA par endroit. Acheteurs et vendeurs sont désolés.
Rien à dire, faire avec, mais c'est les 16 000 francs. Le client ne comprend pas ça. Lui, il suffit de tripler et puis l'amener. terminer. Si tu ne les prends pas, tu vas faire quoi?
La situation est tellement difficile pour nous, puisque les clients n'arrivent pas à nous comprendre. Pour eux, c'est que la vie est chère.
On vend l'essence à 700 litres. Donc les clients, ceux qui font deux, ils prennent des lignes. Avant, on prenait ça à 8 500. On vend à 3 700. Aujourd'hui, c'est à 15 500, on a acheté un bidon. Il y a l'endroit où tu vas en dédier à 17 000.
De 350, on est passé à 400. Et de 400 à 700, par endroit même à 800. Donc, cette situation est tellement difficile pour le moment. On est même parfois limité à faire des courses.
Ce n'est pas la première fois qu'Abuja tente de supprimer les subventions sur le carburant. Les précédentes tentatives ont été abandonnées devant la colère de la population. L'essence relatée est encore plus coûteuse que celle à la pompe dans les stations-service. Les files d'attente sont interminables.
Il revient aujourd'hui au gouvernement de prendre toutes les dispositions, tout au moins en vous pouvez avoir les policiers ici qui vont essayer de mettre de l'ordre pour qu'on serve chacun selon l'ordre d'arrivée. Mais aucun dispositif de sécurité pour mettre de l'ordre. En temps, il y a même des gens qui se sont livrés des coups de poing de l'autre côté.
Et nous sommes à la station pour prendre du carburant. Ici, là, ça fait bientôt 4 heures de temps. Ce matin, j'avais déjà pris le litre d'essence à 1400. Ce que nous vivons, c'est presque un drame. Ceux qui viennent dans nos stations prendre du carburant, et qui vont s'installer aux abords de voir pour nous les revendre à 1500 à 2000, que cela cesse. Cela participe également du social.
Les habitués sont donc obligés de se tourner vers l'essence de contrebande. Ils déboursent deux fois plus, mais disent ne pas avoir le choix et demandent au gouvernement de régler la situation pendant qu'il est temps.
L'État doit voir le prix de la station ici pour nous, s'il va au moins baisser le prix de la station un peu, et puis nous-mêmes, on va en débrouiller.
Ce que j'aimerais demander au gouvernement béninois, c'est d'essayer de nous arranger cette situation et d'essayer de voir le président actuellement installé au Nigeria pour voir quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir rétablir cette situation.
J'ai constaté que l'essence voulait terminer. Donc, aller jusqu'à la station, je risque de trimballer la moto. Donc, je vais acheter l'essence frelatée sur la voie. Le prix pour la station doit dépasser entre 100 francs, 150 et 100. S'il avait une station ici, je n'ai pas besoin de payer ça. Je m'avais directement à la station qui est là, je paye. C'est parce qu'il n'a pas de station dans la zone que je suis. Donc, je suis obligé de prendre ça pour les dépanner.
Mais à l'étape actuelle, les autorités ont-elles la possibilité de trouver des alternatives à l'essence de contrebande? Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouidi, a déclaré que c'est dans la crainte d'une telle situation que le gouvernement a engagé la construction et la mise en service de nombreuses stations depuis 2016. C'est dire que lorsque le géant Nigeria touche, les petits voisins n'ont qu'à chercher à se mettre à l'abri. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bongui 101.7 FM.
En République centrafricaine, alors que des rumeurs de demande d'installation d'une base militaire russe par les autorités défraient la chronique, les Centrafricains sont partagés sur la présence russe dans leur pays. Si certains n'apprécient pas le comportement des paramilitaires de Wagner, qui selon eux font des exactions sur des civils, d'autres en revanche estiment que l'intervention russe en Centrafrique a permis de restaurer la quiétude. Notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila, a recueilli ces réactions de citoyens centrafricains.
Bon, l'intervention des Russes en RCA, ma foi, je peux dire que c'est salutaire sur un point sécuritaire parce que c'est grâce aux Russes aujourd'hui que nous avons eu l'appel à Al-Khami dans les arrière-pays. Et si les Russes n'étaient pas là pour sauver la situation, c'était un chaos. Donc sur ce côté, je peux dire ça.
Sur le plan sécuritaire, moi j'apprécie. Les choses se passent bien. En fait, c'est que ils sont venus, ils font un bon travail. Le travail dont on parle de la sécurité en général, ça met la sécurité auprès des Centrafricains. Donc il y a une confiance qui s'installe. Alors, mais sauf qu'il y a des petites choses qu'on doit essayer de voir avec des Russes. Là, il faut qu'ils changent un peu pour que ça permette au moins de rendre leur travail effectif, tout en respectant les objectifs de la sécurité. Parce qu'on peut pas en même moment sécuriser cette population et terroriser la même population. Là, ça n'a pas de sens.
L'intervention des Russes en Centrafrique ne nous donne beaucoup de joie, beaucoup de la paix. Vous voyez que on avait parcouru des embuscades. Notre économie même a été bloquée grâce à l'intervention des Russes aujourd'hui. Nous sommes tels. Mais c'est grâce à ces Russes-là, aujourd'hui, les Centrafricains sont maintenant en paix.
Les Russes, ils ont leur bon côté et leur mauvais côté. Et moi, je les aime pas trop. Parce qu'ils sèment trop de troubles dans la circulation. Et d'un côté, j'ai eu dire que eux, ils font notre à la sodomie aux hommes dans l'arrière-pays et ils maltraitent les villageois. C'est ce que j'aime pas trop chez eux. Non, en un mot, je les aime pas trop, mais au moins ils nous ont aidés à repousser les rebelles et emmener un peu la paix dans le pays.
Les Russes, du bon côté, ils nous ont aidés à chasser les rebelles, mais du mauvais côté, eux, ils font des exploitations illicites et les circulations sur la route ne sont pas bonnes. C'est nous qui les avons dit de venir, mais de nous aider dans certaines conditions, mais quand ils sont venus, nous traitent, c'est comme si nous sommes des indigènes ou quoi, comme ça, je ne sais pas. Mais, carrément, pour moi, je vois leur présence là, ce n'est pas ça qui est la solution à notre problème.
Vous savez, la Centrafrique, c'est un pays pour ce conflit. Donc, quand un pays brûle, il faut des interventions. C'est pour cela que le régime actuellement en place a joué mieux de faire intervenir les Russes. Mais l'intervention des Russes, on a constaté qu'il n'y a pas vraiment un grand changement. Donc, la crise perdure. Nous avons vu que la situation va de mal en pire. Pour le bon côté, nous avons vu par rapport à l'attaque du 13 janvier que la CPC voulait entrer Bangui. Et c'est grâce aux interventions des Wagner que le régime actuellement existe. Et nous avons vu qu'avec les interventions des Russes, il y a aussi la calmie. On ne peut pas dire que c'est la paix, mais quand même il y a la calmie dans les arrêts.
Ces réactions de citoyens centrafricains sur la présence russe dans leur pays ont été recueillies par notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila. Au Tchad, de la deuxième édition du festival de boissons locales initié par deux jeunes entrepreneurs a pris fin hier à N'Djamena. Pendant une semaine, les différents producteurs ont montré leurs produits pour promouvoir les jus naturels et les boissons locales. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmajingar fait le point.
Toutes les boissons locales sont représentées du nord au sud, de l'est à l'ouest. On a par exemple du chico qui vient du nord. On a également du dap, on a du djala, bilbil. On a également du jus de pastèque, du jus de baobab, du jus de tamarin.
Firmin Bonadé, l'une des productrices du festival de boissons locales. Pour elle, cette rencontre bien qu'artistique a permis de déguster les bières locales des différentes localités du pays.
Il y a ceux du nord qui ne connaissent pas, par exemple, les boissons du sud. Mais quand ils sont venus, ils ont découvert ces boissons locales. Par exemple, ceux qui cherchaient à goûter, par exemple, du djala, qui n'ont pas trouvé. Quand ils viennent ici, ils trouvent du djala. Ceux qui n'ont jamais goûté du chico, par exemple, quand ils viennent ici, ils goûtent du chico.
Pour beaucoup de consommateurs, c'est une découverte de ces bières locales, donc un véritable retour à la source.
À l'époque, quand on était des élèves, c'est que même nos mamans faisaient déjà de la bili, djala. On vivait grâce à ça, donc tu sors de l'école, tu as faim, tu prends un peu de cochette, tu bois et puis tu vas aller lire. Je pense qu'il faut pérenniser l'activité.
Vous allez constater même d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'autres jus et d'autres choses. Mais nous, on a préféré djala, c'est par rapport à notre passé. On souhaite que cela se passe d'une manière régulière. Cela peut également être utilisé comme un instrument de sensibilisation à l'égard de ces jeunes qui prennent le frélaté qu'ils appellent communément grec. Ils peuvent peut-être s'adonner à ça que de prendre ce qui détruit encore leur corps.
Pérenniser, c'est aussi le souhait de beaucoup de femmes productrices de ces produits locaux.
Moi, j'ai dit merci à Dieu pour nos filles qui organise ce festival. Parce que je suis déjà âgée. Donc là où je suis là, je suis en train de soutenir mes filles. J'ai trois licenciés et un qui est encore au collège. Donc c'est avec ça qu'on se nourrit.
Ma prière est que ce festival vive encore pour nous permettre de valoriser tout ce qui est boisson traditionnelle et de permettre aussi à nos mamans productrices qui sont parfois oubliées de faire connaître leurs produits.
Christelle Koussidi, co-organisatrice de ce festival, a dit que ce projet a été réalisé avec beaucoup de difficultés. Toutefois, elle a une vision pour l'avenir.
Comment faire par exemple pour industrialiser nos boissons traditionnelles? Comment faire par exemple pour trouver les emballages, parce qu'actuellement, on est au Tchad, mais on fait venir nos emballages de l'extérieur.
Déjà en marge de ce festival, s'est tenue une formation en gestion de l'entreprise pour permettre à ces producteurs d'avoir une vision un peu plus large sur ce secteur que de déguster seulement les bières locales. Beaucoup d'observateurs estiment que ce festival est à pérenniser à tout prix pour encourager la production locale et le consommer local. André Kodumajingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.